Bienvenue sur Microstandard.
Tiens, bon là-bas.
Pas de bazar.
Rien que des bavards.
Il y aura pas de lézards.
Juste quelques bobards.
Hasard.
Rancard.
Tard.
Zona.
Espoir.
Regard.
Trop tard.
Zanzibar.
Pas de bagarre.
Tiens, bon là-bas.
Zona.
Rancard.
Bienvenue sur Microstandard. Nous voyageons aujourd'hui dans le vaste monde de la nourriture. Préparez vos papilles, cuisinez avec vos yeux, rissolez vos oreilles, peaufinez votre odorat, sortez vos plus beaux plats. On ne vit qu'une fois. Alors tous à table avec Philippe et Mike pour la musique et les chansons. Pour commencer, nous entendrons Gilles et Maria évoquer les restaurants ouvriers. Ensuite, Bruno nous parle de la triste réalité de la crise économique et de la fouille dans les poubelles. Puis nous passerons à table avec une recette du hérisson, confiée par Bertrand, en direct de sa cuisine. Avant de rejoindre le fameux Gargantua avec Maria, on se remettra plein la lampe avec Daniel. Je vous parlerai alors de la notion de jeûne dans les religions et les rites. Rendez-vous ensuite sur les trottoirs de Morlaix avec Mike et Marie-Françoise. Enfin, Mike évoquera la légende de Saint-Roch et de son fidèle compagnon.
Mangez-moi, c'est le chant du silo qui subit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Bonjour Mike, je t'invite au Resto Ouvrier, où nous retrouvons Gilles et Maria. Mais auparavant, petit rappel historique par Daniel.
Grimaud de la Reynière, critique gastronomique et ironie du sort mort à table un jour de Noël, avait pris l'habitude de réunir des amis et d'organiser des jurys dégustateurs. Ces derniers goûtaient les plats apportés par les restaurateurs et, une fois approuvés, leur donnaient un nom de baptême. Ces menus paraissaient dans son almanach gourmand, publié entre 1803 et 1808 et ancêtre de nos guides gastronomiques. Ce nom de baptême pouvait être soit un nom de région, tarte flamande, soit un nom de ville ou de pays, sauce américaine, soit une fantaisie littéraire, turban de filet de merlan à la royale. Il existe deux sortes de services de table, à la française et à la russe. Le service de table à la française, codifié au XVIIIe siècle, consiste à poser l'ensemble des mets sur la table et privilégie l'esthétique à la dégustation. Pas de problème pour les plats froids, les salades ou les desserts, mais beaucoup pour les poissons et les viandes qui se refroidissaient. D'où la création des pâtés en croûte et autres tourtes dont le contenu reste chaud. Antonin Carême, 1784-1833, cuisinier de Talleyrand, puis du Tsar, et ses créations, pièces montées, poularde farcie sur petite broche à rôtir, en est le digne représentant. Le service de table à la russe que nous pratiquons de nos jours aurait été apporté en 1810 par l'ambassadeur du Tsar à Paris. Les mets sont présentés les uns après les autres, découpés prestement et surtout mangés chauds. Ce service permet la progression vers des préparations subtiles, conçues et réalisées pour culminer à l'instant précis où elles devront impérativement être envoyées sur la table sans pouvoir attendre. Nos anciens savaient fêter dignement les événements qui émaillaient leur vie rurale, banquets, mariages, comices et autres cérémonies familiales ou civiles étaient l'occasion pour eux de célébrer l'art de la table et de la convivialité afin d'entretenir un lien social stable. Mais la manière de se nourrir a bien évolué. Exemple d'un menu festif aux alentours de 1900. Potage crème d'orge. Melon, truite du lac sauce mousseline, filet de bœuf à la richelieuse, riz d'agneau béarnaise, timbale dauphine, poularde truffée rôtie, salade, fond d'artichaut au cliquot, aspic de homard à la cardinale, glace clara soleil, pièce milieu de table, dessert, café, thé, liqueur, vin, madère, Saint-Émilion, Beaune, champagne. Si vous désirez retrouver l'atmosphère de ces années-là et réussir à engloutir un tel repas, un sage conseil, prenez donc une chambre d'hôtel sur place.
Mangez-moi. Qui veut manger des œufs doit supporter les poules.
le chant du psylo qui suffit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la paix.
Le premier restaurant, tel qu'on l'entend aujourd'hui, a été ouvert à Paris vers 1765 par un cafetier nommé Boulanger, dit « Chant d'oiseau », qui fut le premier à proposer de la nourriture sur table individuelle à toute heure du jour. Jusque-là, les auberges et les tavernes proposaient plutôt un plat sur table d'hôte à heure fixe. Courant 19e, révolution industrielle aidant, le restaurant se démocratise à une élite urbaine pour accueillir une clientèle d'ouvriers, d'artisans et d'étudiants. Les lieux de restauration s'adaptent pour donner naissance à la gargote, à la guinguette ou encore au bouillon, qui propose de bien se nourrir pour pas cher. Bonjour Gilles, raconte-nous l'histoire du restaurant Sainte-Mélaine à Morlaix.
Cela fait 15 ans que je fréquente le restaurant Sainte-Mélaine à Morlaix.
C'est un resto ouvrier.
Oui, en effet, une clientèle mobile composée d'artisans, d'ouvriers, d'employés des banques, du télégramme, autres employés des commerces.
Qu'est-ce qui attire les clients, Gilles ?
Une cuisine abondante, une qualité à moindre coût, rapidité de service, la carte propose au choix, buffet d'hors d'œuvre à volonté, une viande ou poisson, fromage, dessert, café, boisson, à 2,50.
Et toi, qu'est-ce qui te plaît personnellement ?
Je suis aujourd'hui à la retraite. Je viens retrouver l'ambiance que j'ai trouvée pendant la période d'activité. On échange avec les autres convives.
Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'en parler aujourd'hui ?
Il faut que les restaurants ouvriers perdurent, car de plus en plus les gens mangent mal ou sur le pouce, ou ne prennent pas le temps de manger. Les restaurants permettent, au contraire, d'échanger des convivialités et favorisent le lien social.
Merci à toi, Gilles.
Aucune comparaison entre le restaurant préféré de Gilles et le tourboyau de Pierre Perret.
Se rince la cloison au coup de chef maison. Un Bordeaux, pas piqué des hannetons. De temps en temps, il y a un vieux pull à sueur qui s'offre un vieux jambon au vieux beurre. Et puis une nana, une jolie drôlesse qui lui vante son magasin à fesses. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Il a de la graisse plein les tifs, des gros points noirs sur le pif. Quand Bruno fait le menu et le sert, t'as les premières douleurs au dessert. L'estomac genou qui demande pardon, les boyaux qui tricotent des napperons. Les rotules de grand-mère, c'est du beurre, à côté du beefsteak pomme vapeur. Si avant d'entrer, il te reste une molaire, un conseil, tu la laisses au vestiaire. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Sa femme est morte il y a 3 mois d'un ulcère à l'estomac. Dans le quartier, même le mois le plus doux, tu ne risques pas d'entendre miaou. Des greffiers mignons, il n'y en a plus bézef, ils sont tous devenus terrine du chef. Je me souviendrai longtemps d'un gazier qui voulait à tout prix du gibier. Il chuta avant de sucer les os, les moustaches en croix sur le carreau. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Il envoie des postillons, ça fait des yeux dans le bouillon. Sois prudent, prends bien garde au fromage, son camembert a eu le retour d'âge. Avant de l'approcher, je te jure que t'hésites, ou alors c'est que t'as de la sinusite. Comme Bruno a un gros panari, le médecin a prescrit le bain-marie. Mais subrepticement, en t'amenant l'assiette, il le glisse au chaud dans la blanquette. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Rien qu'à humer le mironton, t'as la gueule pleine de boutons. Il s'agit d'un boui-boui bien crado, où les mecs par-dessus le calando se rincent la cloison au croc-chef maison. Un Bercy pas piqué des hannetons. Cet endroit est tellement sympathique. Il y a déjà le tout Paris qui rapplique. Un petit peu déçu de pas être invité, ni filmé par les actualités. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Allez vite le voir avant qu'il s'achète la tour d'argent.
Une triste réalité de notre société d'abondance, Bruno, puisque tu nous parles de ces personnes qui se nourrissent dans nos poubelles.
La faim justifie parfois les moyens, et nombreux sont ceux qui, par nécessité, en viennent à rechercher leur nourriture dans les poubelles. Juridiquement, en France, tout déchet est considéré comme res nullius, c'est-à-dire qu'il n'appartient à personne et que celui qui s'en empare en devient le propriétaire. Faire les poubelles est donc quelque chose de tout à fait autorisé. Par contre, la benne, elle, a bien un propriétaire et sa fouille n'est possible que lorsqu'elle se trouve sur la voie publique. En premier lieu, il faut prévoir un sac pour y ranger ce que l'on choisit. Ensuite, il faut s'appuyer sur le rebord de la poubelle avec ses abdos inférieurs pour espérer atteindre le fond. Après quoi, une torsion de la colonne vertébrale permet d'attraper ce que l'on a repéré. Rentrez chez vous, il ne reste plus qu'à préparer le délicieux repas que vous n'auriez pas pu vous offrir. Mais ceux qui font les poubelles ne sont pas forcément tous dans le besoin, car c'est aussi une pratique anticonsumériste de plus en plus répandue, qui est en premier lieu un message qui appelle à la modération et propose une alternative au gaspillage insolent et permanent de nos sociétés. Ces personnes sont appelées des déchetariens. Nous savons bien que chaque jour, les grandes surfaces jettent en masse des produits parfaitement sains et des kilos de fruits et légumes à peine avariés, tandis que pas loin d'un milliard d'êtres humains manquent de nourriture. Les déchetariens expriment ainsi leur opposition à une société animée par le profit.
Autre signe des dysfonctionnements de notre société, avec la chanson des Enfoirés pour les Restos du Cœur.
We'll be right back.
Autrefois, on ne mangeait pas tout à fait comme aujourd'hui. Par exemple, au Moyen-Âge, le hérisson était un mets particulièrement prisé par les gourmets. Bertrand nous en propose une recette, mais attention, aujourd'hui le hérisson est une espèce protégée et l'amande est de rigueur.
Hérisson soit coupé par la gorge, escorché et effondré, puis refait comme poussin, puis pressé en une touaille et ilec très bien essuyé. Et après ce rosti est mangé à la cameline ou empasté à la sauce de Hallebrand. Nota que seul le hérisson ne se veut destortiller, l'on le doit mettre en l'eau chaude, et l'or il s'estendra. Pour faire cameline, l'on broie gingembre, cannelle et safran, et demi-noix muguette, destrempée de vin, puis ôtée du mortier, puis aillée, mis de pain blanc, sans brûler, trempée en eau froide et broyée au mortier, détrempée de vin et coulée, puis boulez tout et mettez au dérain du sucre roux, et ce est cameline d'hiver. Et en esté la font hôtel, mais elle n'est point boulie.
Mais heureusement, il y en a aussi qui ne se privent pas, et s'en mettent plein la lampe. Daniel a fait une recherche sur l'origine de l'expression « s'en mettre plein la lampe ».
S'en mettre plein la lampe. Cette expression très claire en apparence est soit le fait d'un jeu de mots, soit d'une méprise. En effet, afin qu'une lampe s'éclaire, il convient de la remplir, tout comme un estomac affamé. Mais il existe un ancien mot français, « lampas », qui désignait la gorge, le gosier, ce qui a donné une lampée, c'est-à-dire une grosse gorgée. Autrefois, nous disions « humecter le lampas ». Émile Littré, dans son dictionnaire, donne cette expression comme vieillie et populaire. Écoutons Jean de La Fontaine.
Ah ah, sire Grégoire, vous avez soif. Je crois qu'en vos repas, vous humectez volontiers le lampas.
Il a donc dû se produire quelque part un glissement de lampas vers lampe.
Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi.
De toutes les nourritures que nous absorbons, un tiers sert à nous nourrir. Les deux autres tiers servent à nourrir le médecin.
La confiture reste un synonyme de gourmandise. Les frères Jacques l'ont chanté. Nous nous en régalons.
La confiture, ça dégouline, ça coule, coule sur les mains, ça passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut avec du beurre, les trous, on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est un leurre, car ça coule par les côtés.
Faudrait contrôler sa tartine,
la tenir droite exactement.
On la met en bouche, elle s'incline,
ça coulerait inévitablement.
Et ça vous coule dans la manche, ça vous longe le pourpoint, de l'avant-bras jusqu'à la hanche, quand ça ne descend pas plus loin.
Et quand ça coule pas, ça tombe,
le pain s'écrase entre les doigts,
ça ricoche et puis ça retombe.
Côté collant, ça va de soi.
On tente de passer l'éponge, on en met plein ses vêtements. Plus on essuie, plus on allonge, plus on frotte et plus ça s'étend.
C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent manger de la crème de marron.
Ça colle au pain, c'est sans mystère, c'est plus commun, mais ça tient bon. On fait l'école buissonnière, de retour on prend l'escabeau. On va plus loin vers l'étagère, pourquoi tourner autour du pot? Qu'elle soit au reste à la rhubarbe,
dans la gurgite coulumant. La confiture, on la chapare, on l'aime clandestinement. Puis un jour, on les vient en place, on mène la vie, le château, dans les salons, dans les palaces, on nous porte sur un plateau. La confiture qui dégouille, la bourgogne en double sur les mains, qui passe par les tours de la vie.
Ça sert à rien, c'est à l'heure. Ça coule par les gouttières.
Gargantua ne manquait pas d'imagination pour s'en mettre plein la langue. Maria nous rappelle ce personnage picaresque rencontré au cours de nos chères études.
Dans cette émission spéciale alimentation, comment ne pas évoquer le personnage emblématique Gargantua ? Livre plein de pantagruélisme, ou plus simplement Gargantua, est le deuxième roman de François Rabelais. Publié en 1534, ce personnage était le fils d'un homme et d'une femme bien portants et bon vivants, Grand Gousier et Gargamel. Il naquit dans de bien étranges conditions. Porté pendant 11 mois pour naître finalement de l'oreille de sa génitrice, lors d'une partie de campagne organisée par Grand Gousier, où sa mère a beaucoup mangé, ri, plaisanté et dansé. Sa taille extraordinaire permet à Rabelais de décrire de nombreuses situations bouffonnes. Par exemple, immédiatement après sa naissance, le nouveau-né est mort de soif et réclame « à boire ». Surpris et amusé par une telle soif, son père s'exclame « que grand gosier tu as !» ce qui vaudra à l'enfant d'être appelé Gargantua. Les parents du héros plaisantent sur le thème de la nourriture. Gargamel se goinfre de tripes quand elle accouche par l'oreille droite. Tout comme elle, Gargantua n'est jamais rassasié. Il a fallu ainsi de nombreuses vaches pour l'allaiter. Aujourd'hui encore, Rabelais, son auteur, reste l'un des plus célèbres écrivains humanistes français de la Renaissance, et Gargantua, aussi bien que Pantagruel, sont de leur côté considérés comme l'une des premières formes du roman moderne. Le Gargantua demeure un livre de divertissement, même de défoulement satirique, de jubilation langagière, de bouffonnerie, qui n'a pas de frontières ni de classe. La célébration du corps est surtout une célébration heureuse de la vie, dans toutes ses dimensions, psychologiques mais aussi physiques. Gargamel aime les plaisirs de la vie, sans fausse pudeur, dans une acceptation du corps. Elle symbolise un naturel en contradiction avec les préceptes de l'Église. C'est aussi pour cette raison que Rabelais insiste sur les parties du corps, sur lesquelles règne ordinairement un interdit religieux. Son œuvre est une acceptation du ventre et de ses fonctions. Manger permet aussi d'accomplir son humanité, c'est un besoin naturel et légitime de l'homme, mais c'est aussi la volonté de connaissance humaniste sur l'homme, le monde et la vie qui est figurée dans l'acte de manger. Comme pour le chien de Socrate, suçant la substantifique moelle. Le XVIe siècle est marqué par l'inquiétude liée aux persécutions religieuses, aux guerres et aux famines. En ce sens, les plaisirs de la vie, du manger et de la boisson doivent être compris en cette époque comme un dérivatif à la peur de mourir, à la peur de la guerre et des grandes persécutions.
Autre plaisir gourmand avec une chanson d'Olivia Ruiz. Olivia est originaire d'une famille espagnole qui a fui le franquisme. Elle a choisi son nom Ruiz en hommage à sa grand-mère. Après la Star Academy, c'est avec Dionysos qu'elle a réalisé son premier album. Nous écoutons La Femme Chocolat avant la dégustation de la création poétique de Thierry.
Métamorphose. Au bout de
manger de chocolat.
Ah, les gâteaux, religieuses, commissaires, noix japonaises, loukoum, tunisien, alsacienne. Avec un gâteau, l'on est à son aise. Agrémenté d'un café, un jour alsacienne sera mienne. Pâtisserie réclame savoir-faire. Le pâtissier a tout pour plaire. Pâte brisée, pâte feuilletée, crème pâtissière. Tout un art dans l'atelier de derrière. Allier chocolat et pâte à choux peut faire gagner des sous. Pourvu que le rendez-vous au salon de thé, chaise en acajou, café rallongé, pour simplement dire je t'aime à une future dulcinée.
L'agriculture ne sert plus à nous nourrir, mais à faire des devises.
Mike et Marie-Françoise ont tendu leur micro à nos amis morlaisiens. Vers quelle nourriture vont leurs préférences?
Et de vous fromage ou dessert, s'il vous plaît, mademoiselle?
Pardon, j'aime beaucoup le fromage.
Non, moi, c'est pas du tout le fromage. Ça peut être glace, yaourt,
fruits.
Oui. Les deux.
Les deux, moi.
D'accord.
Les deux.
Oh, punaise. C'est dur, là. Dessert, quand même.
Quel genre? Glace, fruits noirs.
Tarte à la fraise, plutôt.
Êtes-vous fromage ou dessert?
Plutôt dessert. Les desserts de ma maman. Les bons gâteaux.
Ah, elle fait quel genre de gâteau, votre maman?
Ah, des gâteaux yaourt avec des pépites de chocolat.
Ah, c'est excellent, ça.
Ah oui, surtout bien beurré.
Dessert.
Quel genre de dessert?
Quel genre de dessert? Plutôt des fruits. Des fruits ou des glaces, ouais.
Oui, qu'est-ce que vous voulez m'apposer?
Alors, êtes-vous fromage ou dessert?
J'aime bien le fromage.
Plutôt chèvre.
Un peu tout.
D'accord.
Tous les bons fromages français. Je suis un gros mangeur de fromage. Mais dans les grandes surfaces, c'est maltraité. C'est on le prend, il est glacé et ça ne va pas.
Vous avez dit quoi en premier?
Fromage ou dessert? Fromage ou dessert.
C'est soit l'un ou soit l'autre.
Êtes-vous huile d'olive ou beurre salé?
Huile d'olive.
Ah, vous êtes méditerranéenne?
Non, non, pas du tout. Non, je suis bretonne. J'adore le beurre salé avec mon pain, mais l'huile d'olive avec la cuisson.
D'accord.
Beurre salé, que ce soit tartine ou cuisson, c'est pareil.
Plutôt huile d'olive, je ne prends jamais de beurre.
Pour la cuisson, l'huile d'olive, et pour l'assaisonnement, l'huile de colza. Il va au pôle de prévention, alors on est obligé de... Hein?
Beurre salé. Ah, on est en Bretagne, hein?
Ah, typiquement Bretagne.
Ah oui. Même si je suis pas breton, je me suis habitué à la coutume.
C'est vrai, ça. Ouais, ouais. Un étranger, qu'est-ce qu'il fait? C'est bien.
Huile d'olive. Je viens du sud.
Ah, du sud, non.
Ah, vous êtes méditerranéen, ça s'entend. Hein.
Non. Du Pays Basque.
Du Pays Basque.
Du Pays Basque. D'accord.
Le beurre pas cuit. Fait, comme ça, nature. Sur un bon beefsteak cuit, un bon goût de beurre salé.
Huile d'olive du midi, huile d'olive.
Bien sûr, obligatoire d'olive. Dans le sud.
Mais quoi que le beurre salé, ça peut se faire aussi.
Êtes-vous McDo, kebab ou gastronomique?
Gastronomique.
McDo. Je vais pas le cacher.
Ah, plutôt McDo. Ni McDo, ni kebab. Gastronomique. Hein.
Bon, McDo quand même.
McDo ou kebab, peu importe.
Alors, officiellement gastronomique, mais quand même McDo.
On n'est pas McDo, on n'y va jamais. Et... Non. On fait la cuisine nous-mêmes. Hein. On aime bien un coup de temps en temps au restaurant, mais c'est rare, on fait attention.
Toutes les cuisines, mais il faut savoir les choisir. Parce que dans même la cuisine anglaise, c'est pas mal sur certaines choses.
Coluche aimait dire que l'artichaut est un plat de pauvre, car il y en a plus dans l'assiette quand on a fini de le manger.
Il
Bobby Lapointe, manier l'humour et les plaisirs de la vie. Nous avons choisi la chanson Aragon et Castille.
Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil au bras. Mais chez mon pâtissier, il n'y en a plus, c'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui. Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert. Le camembert c'est bon quand c'est bien fait, vive l'amour. À ce propos, revenons à nos moutons. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Vendre des glaces est un très bon métier, poil aux pieds. C'est beaucoup mieux que marchand de mouron, pas tabou. Marchand de mouron, c'est pas marrant. J'ai un parent qui en vendait pour les oiseaux. Mais les oiseaux n'en achetaient pas, ils préféraient le crottin de mouton. À ce propos, revenons à nos agneaux. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Mais la Castille, ça n'est pas l'Aragon, ah mais non. Et l'Aragon, ça n'est pas la Castille. Et la fille s'est passée de glace au citron avec vanille. Et le garçon n'a rien vendu, tout a fondu. Dans un commerce, c'est moche quand le fond fond poil au pied. À propos de pied, chantons jusqu'à demain. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron.
Les rires éclatent mieux lorsque la nourriture est bonne.
Quelles études faut-il faire pour devenir un chef ? Réponse avec Gilles.
Il s'agit du grand cuisinier Paul Bocuse. Un jour interviewé dans les années 75-80 par Jacques Chancel dans le cadre de l'émission Radioscopie sur France Inter. Au fait, monsieur Paul Bocuse, vous qui êtes un grand gastronome, un grand cuisinier réputé dans le monde, quels sont vos diplômes ? Ah, répondit Paul Bocuse, moi c'est bien simple, à 14 ans j'avais déjà mes deux bacs, un bac d'eau froide et un bac d'eau chaude.
La nourriture a toujours été sous haute surveillance dans la religion. J'en ai fait une étude approfondie.
Qu'est-ce que le jeûne ? Le jeûne, c'est la privation volontaire de toute nourriture, accompagnée ou pas de consommation de liquide. Le jeûne sollicite des mécanismes d'adaptation physiologique. D'autre part, d'un point de vue médical, le jeûne commence à partir de la sixième heure après le dernier repas. Dans l'histoire, les religions se sont appropriées le jeûne. Chez les catholiques et les orthodoxes, le jeûne est monnaie courante et est considéré comme une pratique de pénitence qui permet de prendre conscience de ses manquements et de se rapprocher de Dieu. C'est aussi une référence aux personnages bibliques qui ont souvent pratiqué le jeûne. Moïse, Élie et enfin Jésus ont tous jeûné pendant 40 jours. Chez les musulmans, on pratique le ramadan, présenté comme un renoncement spirituel qui va bien au-delà du jeûne et inclut la privation de boissons, de tabac et de sexualité entre le lever et le coucher du soleil. C'est en fait le quatrième des cinq piliers de l'islam. Chez les juifs, différents jeûnes sont mentionnés dans la Torah et les deuils sont également l'occasion de jeûner. Le jeûne est aussi présent chez les bouddhistes, les hindouistes. Les jeûnes répétés de Gandhi sont bien connus. Et rappelons-nous que même pour nos druides celtes, il était nécessaire de jeûner et de prier pendant une longue période avant d'être initié plus en avant dans la pratique. Il reste un point parfois controversé, mais qu'il ne faut pas oublier au sujet du jeûne, c'est celui de l'hygiène naturelle. Regardez, dans la nature, les animaux arrêtent instinctivement de se nourrir quand ils sont souffrants. D'autre part, les ours jeûnent pendant l'hibernation et les oiseaux pendant longs vols de migration. L'abstinence de toute alimentation, au-delà des traditions religieuses, est également perçue comme un acte d'hygiène. On appelle ça le grand ménage. Notre corps a besoin de repos, peut-être davantage avec la malbouffe de notre époque. Socrate et Platon, grands philosophes grecs, conseiller le jeûne pour obtenir et maintenir un bon état physique et mental. Ils observaient régulièrement des jeûnes de 10 jours. Aujourd'hui, le jeûne devient une nouvelle tendance pour une vie saine. Il s'agit de faire une pause avec la nourriture pour purifier l'organisme, se sentir mieux et plus léger, telle une véritable renaissance. Une nouvelle hygiène de vie qui fait de plus en plus adeptes et permet surtout d'éliminer les toxines accumulées. Mais au-delà, le jeûne déclenche un processus d'auto-restauration. C'est aussi l'occasion de découvrir en soi des possibilités insoupçonnées, pour autant que la décision de jeûner soit prise librement et non sous la contrainte. En effet, sous le plan psychologique, l'abstinence est riche en enseignements. Cela permet de faire le tri entre les notions de faim, d'appétit et d'envie convulsive.
On est foutu, on mange trop, et on le dit de plus en plus souvent. Y a là ce chant d'où le chant.
Guerrier roule, tourbillon des belles danseuses rêveuses, que la révolution rend nerveuse. Mais l'estomac y tient pas le tempo, tombe de haut gringo pistolero. Dans la crème chantilly les gâteaux, dans la crème chantilly les gâteaux. Le gros bibin d'homme que t'as dans le cœur, tu l'as trouvé beau dans le temps, petite sœur. 60 kilos d'échevelés poètes, tout lui vide au milieu des tempêtes. Mais l'estomac y tient pas la rime, l'albatros patouche dans l'ice cream. Nous v'la jolie, nous v'la beau, tout en pâté, pâteau par les pâtés, les gâteaux. Nous v'la beau, nous v'la jolie, en kilos et soumis sous les kilos de calories. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop. Papa Mambo.
On est foutu. On mange trop. Roulait des hanches en douceur, chanteur, dans son habit cœur, belle minceur, le poster fatal au-dessus du lit. Mais la petite fille d'alors, elle a grossi, elle a groupie, fait de la bonne cuisine. Le chanteur a débordé de son jean, nous v'la jolie. Nous v'la beau, tout en pâté, pâteau par les pâtés, les gâteaux. Nous v'la beau, nous v'la jolie, en kilos et soumis sous les kilos de calories. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo. On est foutu, on mange trop.
Et pour le dessert, je vous propose de savourer la légende de Saint-Roch à la crème maille.
Natif de Montpellier, en 1292, une cuillère en argent dans la bouche, je suis le fils du gouverneur. Ma naissance coïncide à la chute de Saint-Dacre en Terre Sainte. Je suis âgé de 19 ans lorsque je remarque un saltimbanque accompagné d'un chien. Ce dernier s'approche de moi, un chapeau dans la gueule.
Hé, hey, gamin, tu apprécies mes acrobaties?
Non, c'est ton chien qui me plaît.
Mais il m'est trop précieux.
Écoute, bohémien, je te le joue au bolto. Ou jeu des trois gobelets. C'est un tour de passe-passe.
Si tu perds, tu me devras 10 pièces d'or. Si tu gagnes, je te cède mon chien, Billy.
Marché conclu. Le bohémien réalise son tour. Je gagne 3 fois de suite. Et c'est ainsi que j'adopte Billy le chien. Hélas, à 20 ans, je perds mes parents. Je décide de devenir pèlerin. Issu d'une famille aisée, je vends tous mes biens au profit des pauvres. Accompagné de mon fidèle Billy, je sillonne les routes de France. Je soigne de nombreux malades de la peste, mais je contracte la maladie. Je rentre alors dans le tiers-ordre de Saint-François d'Assise. Je vis dans une cabane, tel un ermite. Billy est mon seul soutien et prend soin de moi. Il me nourrit. Un jour, il m'apporte des petits pains et je lui dis gentiment « Où sont les rillettes ?» Joignant le geste à la parole, j'accroche un sac au cou de Billy et il me rapporte un jambon de part. Miraculeusement guéri, je reviens alors dans mon pays de Montpellier, toujours accompagné de mon cher Billy. Mais la France est divisée, jetée en prison et accusée de trahison. C'est alors que je manifeste des dons de thaumaturge auprès des prisonniers qui en viennent à dire que je suis Saint-Roch en compagnie de mon cher animal. Puis, j'échappe à mes geôliers grâce aux astuces de Billy. Vers 1379, ma réputation de sainteté s'accentue, surtout dans le sud de la France, puis en Lombardie, en Italie. L'église ne m'a pas canonisé. Malgré tout, je reste le saint patron des antiquaires, des médecins, des chirurgiens, des charistes, des lépreux et des prisonniers. Vous pouvez me voir représenté en compagnie de mon chien dans les vitraux de l'église de Saint-Sauveur à Dinan.
Vous avez encore un petit creux ? Marie a de quoi vous mettre l'eau à la bouche.
En temps de guerre, les restrictions sont de rigueur. Cependant, certains se disent qu'une petite tranche de rire aide à passer des moments difficiles. Voici un menu fictif, petit chef-d'œuvre plein d'humour, datant de la Seconde Guerre mondiale. Apéritif. Piquons dans le gras. Hors d'œuvre. Œufs frais, tondus, quadragénaires. Coquille Tipoa, l'imprimeur. Relevé. Fuite financière à la bruxelloise. Pot pourri du charognard. Entrée, perche tendue, dure de la feuille. Constipé de boudin à la ravigote. Légumes, petit pois plume, knock-out. Rôti, poitrine tombante sur genou cagneux, filet de voie cassée, chromatique. Dessert, bombe de pruneau atomique, amande fiscale au parvenu. Vin, côte d'Adam la Dèche, petit duc honnard, château Fortengueule. Café son beurre.
Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, c'est le chant des silos qui suffit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Il pleuvait beaucoup ce jour-là, heureusement on avait des capuches,
et surtout des pochons solides. Là-bas les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette.
Mangez-moi, c'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Est-ce que c'est un bon? Mais non, c'est pas un bon, car y'a pas de téton. Et puis il est trop plat, il a pas la bonne couleur, ne nous décourageons pas. Ouvrons les oreilles et écoutons.
mangez-moi, 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 mangez-moi. C'est le chant du silo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Bienvenue sur Micro Standard.
Cabo la barre.
Pas de bazar.
Rien que des bavards.
Il y aura pas de lézard.
Juste quelques bobards.
Hasard.
Rancard.
Tard.
Zona.
Espoir.
Regard.
Trop tard.
Zanzibar.
Pas de bagarre.
Cabo la barre.
Zona.
Rancard.
Bazar.
Après ingestion plus sec de tout cela, j'espère que personne ne fera de crise de foie. Cette émission de Micro Standard se termine. Avec Mac, on vous dit à la prochaine. Vous pouvez la réécouter sur notre site www.standard.org. Kenavo, ciao!